turn the volume up. Bonjour à vous, auditeurs de Radio Galère, et bienvenue dans cette émission mensuelle de la Libre Pensée que vous pourrez désormais retrouver tous les premiers mercredis du mois de 13h30 à 14h30. Dans cette émission interviendront pour la Libre Pensée Henri Huy, Michel Garin et moi-même Claudette Coudeville. Et nous avons à nos côtés un invité, Thierry Adam, qui est membre du collectif pour un plan d'urgence pour l'école publique dans le 13, collectif qui vient d'être créé. Et donc nous l'avons invité à venir parler de ce collectif aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour.
Tout d'abord, nous allons commencer par donc une intervention d'Henri, qui est malheureusement absent, mais qui a eu la bonté d'enregistrer son intervention. Cette intervention va avoir lieu à propos du rapport commandé par Emmanuel Macron sur les frères musulmans, qui a ouvert une nouvelle campagne dénonçant un ennemi de l'intérieur qui s'infiltrerait partout, mettant en danger la sécurité nationale, rien moins, ce qui justifierait évidemment de nouvelles mesures liberticides. Donc nous allons écouter à présent l'intervention d'Henri.
Qui nous écoute. Donc Gabriel Attal, ancien Premier ministre de Macron, se croit malin quand il lance un de ses coups de com' dont il n'est pas le seul à abuser. Il faut interdire le voile aux mineurs de moins de 15 ans. Mais la place qu'il cherche à occuper est déjà très encombrée par les Retailleau, Le Pen, Macron, Darmanin, Zemmour, Bardella et j'en passe. Plus préoccupant, un conseil de défense s'est réuni à l'occasion de la sortie d'un rapport sur les frères musulmans. Encore une fois, on peut se poser la question, où vont-ils chercher tout ça? Du point de vue des slogans, ils copient les dictatures fascistes ou fascisantes du passé. Pour ne prendre qu'un seul exemple, la dictature des colonels grecs, dans les années 60, faisait arrêter dans la rue les femmes en pantalon et faisait tondre par la police les hommes aux cheveux longs. Du point de vue de la pensée, si j'ose dire, c'est la politique du bouc émissaire. Cette politique peut se résumer ainsi. Il y a une crise politique, institutionnelle, économique, sociale, qui remet en cause les conditions de l'existence de dizaines de millions de gens. Travail, études, logement, alimentation même. Cette situation qui chaque jour s'aggrave pousse la population dans sa grande majorité à chercher à s'opposer, à vouloir arrêter, voire inverser le cours des choses. On sent monter la tempête. Il est donc urgent de tenter de diviser, de dresser ces millions de gens les uns contre les autres pour qu'ils se prennent à la gorge entre eux, afin qu'ils ne puissent pas s'unir contre les milliardaires qui utilisent ces hommes politiques, tout comme ils contrôlent les médias. Les Frères musulmans est une organisation fondée en 1928 en Égypte par Al-Banna. Au printemps 2025, un rapport classé secret défense est remis à M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Ce rapport est publié, du moins de très larges extraits sont publiés dans la presse, ce qui confinerait à la trahison puisqu'il s'agit de secret défense. Mais bon... Le président de la République, qui préside le Conseil de dépenses, serait furieux de ne pas avoir eu la primeur du document. Cette publication a un certain nombre de caractères particuliers. en matière de secret défense, on s'aperçoit qu'on est au gouvernement de Tartuffe. Il s'agit d'une lamentable mascarade à visée bassement politicienne. Le prétendu brûlot sensationnel dont les gazettes s'emparent pour tenter d'enflammer les esprits, tant au regard des constats des auteurs que des préconisations qu'ils formulent, ne contient pas grand-chose. Si on se fie aux documents fournis par le gouvernement lui-même, on compterait 1000 personnes au maximum affiliées à cette organisation des frères musulmans, qui réunirait le vendredi 91 000 fidèles, dont la plupart, il est vrai, ne se reconnaissent pas dans la figure d'Albana, le fondateur des frères musulmans. Il contrôlerait 139 lieux de culte sur 2800 lieux de culte musulmans en France, ainsi que 53 organisations cultuelles, dont une douzaine seraient en sommeil. Les moyens financiers dont ils disposent sont en diminution de 50% en 5 ans, s'élèveraient aujourd'hui à 500 000 euros par an. Le lycée AVOS, qui est un lycée sous contrat d'association en fonction de la loi Debré, que les frères musulmans auraient influencé à sa création, ne reçoit plus de financement public depuis la rupture de la convention avec l'État, puisque cet établissement a été contrôlé 17 fois jusqu'à ce qu'on trouve un argument pour suspendre la convention, alors que, par exemple, Betaram n'est toujours pas suspendu. Le contrat de la convention avec Betaram n'est toujours pas suspendu. En moyenne, il est vrai, les établissements d'enseignement privé catholique sont contrôlés tous les 1500 ans environ. Donc on le voit, la prise du pouvoir par les frères musulmans n'est pas pour demain, même si leur projet, rétrograde, arriéré, est d'étendre leur vision du monde à toutes les sociétés, comme c'est le cas du reste de tous les mouvements religieux, dogmatiques, comme les intégristes catholiques, par exemple. Alors, on les accuse de détournent du monde arabe, où leur influence diminue et qu'ils tentent d'investir en Europe de manière sournoise, nous dit-on, par en bas, en s'investissant dans les communes, dans des associations sportives et culturelles, etc. Il est évident que ces choses-là ne sont les catholiques, l'Église catholique et les associations de protestants évangéliques ne le font pas du tout, chacun le sait. Mais enfin, quant aux mesures proposées par le rapport, elles sont à la hauteur de la terrible menace qu'on nous brandit. Je les énumère. 1. Définir plus précisément d'un point de vue juridique les agissements des islamistes, puisque ce seraient des islamistes. Ce qui revient à dire qu'au jour d'aujourd'hui, on leur reproche ceci et cela, mais aucune définition juridique précise ne vient qualifier les agissements qu'ils ont ou qu'on leur prête. Deuxièmement, publier chaque année un rapport destiné au grand public. Je pense que ça va les faire frémir. Troisièmement, développer l'islamologie et la recherche universitaire sur le culte musulman au sens large. Donc là, il ne s'agirait plus seulement des frères musulmans, des frères musulmans. Contraindre les services de renseignement à produire un rapport annuel sur l'islamisme. Ça, par contre, c'est prendre les gens vraiment pour des bonnets, parce que tous les matins, des ministres, d'ex-ministres, nous annoncent qu'il y a un danger terrible, qu'il faut multiplier telle ou telle mesure législative. Ils ont tous des projets de loi en réserve. Et en fait, ils ne seraient au courant de rien, puisque les services secrets doivent être contraints pour leur fournir à l'avenir un rapport annuel. Enfin, c'est vraiment une vaste rigolade. Et point suivant, améliorer la connaissance par les décideurs locaux des cultes en général, et de l'islam en particulier. Tant qu'ils y sont, ils pourraient aussi leur proposer d'apprendre et d'appliquer les principes de la laïcité, c'est-à-dire de la stricte séparation entre les cultes et l'État, et puis aussi de tenir à égalité en droit les citoyens, quels qu'ils soient. Précisons que pour la libre pensée, il est inadmissible de se prêter au nom d'une prétendue laïcité dévoyée à cette campagne odieuse de désignation des boucs émissaires. La libre pensée l'affirme haut et fort, le combat pour la laïcité s'inscrit dans le cadre défini par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans son article 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. De la même manière que la loi de 1905 de séparation des cultes et de l'État affirme « La République assure la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte. » Et, pour ce faire, pour que chaque citoyen soit en droit égal des autres, quelles que soient ses options et ses origines personnelles, elle précise que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Pour conclure mon propos d'aujourd'hui, on m'a proposé de présenter une chanson. C'est une chanson de Nina Simone, qui est morte le 21 avril 2003 à Carilorue, et alors qu'elle est née en 1933 en Caroline du Nord aux USA, où elle connut de très près la pauvreté et le racisme. Pianiste, chanteuse et compositrice américaine, c'est une des plus grandes chanteuses de jazz de l'histoire. Elle a enregistré une cinquantaine d'albums. Au milieu des années 60, Nina Simone s'engage dans le mouvement de défense des droits civiques. Sa musique sera très influente dans la lutte pour l'égalité des droits que mènent les Noirs américains. Nous vous proposons donc d'écouter aujourd'hui « I wish I knew how it feels to be free », qu'on pourrait traduire par « Je voudrais savoir comment ce serait d'être libre », de pouvoir rompre toutes les chaînes qui me retiennent. Merci de votre attention.
Do all the things that I can do, though
Eh bien, une sacrée grande dame, cette Nina Simone. Alors, pour poursuivre, à présent, je vais interroger, je vous rassure, pas avec des armes, Thierry, donc, qui est là pour nous parler du collectif... excusez-moi, pour un plan d'urgence pour l'école publique dans le 13. Alors Thierry, ouais. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ?
Oui, merci de cette invitation déjà. Donc moi je suis enseignant à Marseille au lycée Simone Veil depuis 5-6 ans. Je suis par ailleurs à Sud Éducation. Voilà, que dire de plus que... J'ai un peu cette trajectoire de militer un petit peu depuis une trentaine d'années, même avant, et bon, de suivre un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la mobilisation, sans que ce soit forcément extraordinaire. Et surtout ces dernières années, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a des grands mouvements qui sont décevants, et après, il n'y a plus rien, ça retombe. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre de plus sur moi.
Bon, ben d'accord, tu vas pouvoir parler du collectif.
Ouais, voilà.
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'action donc, que mène le collectif, évidemment, pourquoi il a été créé et tout ça, et donc, je te laisse faire.
Ouais, alors, donc c'est un collectif qui est informel, on a choisi ensemble ce nom-là, le collectif pour un plan d'urgence dans le 13, sans que ce soit vraiment encore acté, il est informel parce qu'il n'y a pas eu... encore vraiment la volonté de le nommer comme ça et d'en diffuser l'existence. En gros, c'est des énergies qui se sont retrouvées aux alentours du mois de mars-avril avec le constat, notamment dans certains lycées, d'une diminution de moyens à travers ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la DGH, la dotation horaire. Et notamment un lycée en particulier, Victor Hugo, qui se voit doté de moins d'heures, de moins de moyens pour pouvoir faire des dédoublements de groupes, par exemple. Et avec l'explication suivante qui est de dire, une partie de nos moyens ont été redistribués vers Jacques Chirac, dixit donc leur proviseur. Et sur cette remarque... civiline, en fait les collègues ont réagi et ont voulu un petit peu voir si c'est déjà partager l'état des lieux dans d'autres lycées de collèges du 13, voir les écoles, et ont appelé à une réunion à la Bourse du Travail un petit peu dans la foulée. On s'est retrouvé à une 20-30 à débattre des moyens dans le lycée. Puis rapidement, comme on n'était pas que des collègues de lycée et de collège, il y avait deux collègues de Rosa Parks, là, par exemple, qui sont venus parler de leur situation de leur école, qui est assez symptomatique et dramatique. Et après, il y avait aussi un collègue du collectif de la CGT, du conseil régional, des agents du conseil régional. Donc on a eu plusieurs éclairages et finalement on a croisé un petit peu nos regards et on s'est rendu compte que oui, c'est vrai qu'il y avait des problèmes dans l'éducation nationale, mais le côté l'argent va vers Jacques Chirac et au-delà en plus va vers tout le secteur privé, nous a vraiment interpellés. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre le projecteur justement sur ce problème, ce souci de... du financement non seulement de l'école privée de manière générale, du bâti du privé et de l'école privée via les lois Debré, mais bien au-delà même de ce que la loi Debré impose. Et donc un détournement quelque part d'un argent qui manque dans le secteur public. Et du coup, voilà, on a décidé d'organiser un rassemblement devant la Cité scolaire internationale Jacques Chirac, qui a été un petit peu, qui reste pour l'instant un peu l'acte fondateur du collectif. Voilà. On a fait une action qui était somme toute assez, assez intéressante. On était 70, 80, peut-être une petite centaine, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui était important, puisqu'il y a eu deux, trois articles dans la presse, et ça nous a paru déjà assez intéressant pour pouvoir continuer à mettre un petit peu le projecteur dessus. Voilà. Donc pour l'instant, ce collectif, il rassemble une trentaine de personnes liées à l'éducation nationale. Il y a une personne qui est à FCPE, donc des gens des collègues du primaire, secondaire, agents territoriaux, rassemblés avec l'envie de faire quelque chose, des actions, mettre un coup de projecteur sur cette problématique-là, avec des syndicats qui sont proches sans être vraiment dans le collectif, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont déjà syndiqués, qui ont des mandats éventuellement, donc qui sont finalement très proches. Donc il y a FO, il y a la Sud, il y a CGT, agents territoriaux. Voilà, donc pour l'instant, ça se construit autour de la volonté de refaire un petit peu la même chose régulièrement, de remettre un coup de projecteur autour de ces questions-là, des problèmes dans l'école sur le 13 et de l'ambiguïté ou des choses à regarder du côté du financement de l'école privée. J'ai pas été trop long ?
Non, pas du tout, au contraire. Tu peux prendre le temps que d'accord. Tu veux. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi être allé au lycée Jacques Chirac?
Alors déjà il faut absolument que je fasse une petite virgule parce que on s'habitue à prononcer quand même ce nom-là. C'est-à-dire que il y a tout un symbole autour du fait de prendre le nom d'un escroc pour habiller une cité scolaire qui va être donc une espèce de passerelle entre le public et le privé. C'est quand même c'est pas une galéjade parce que c'est quand même incroyable. Enfin, on pourrait décliner un certain nombre de, je sais pas, on pourrait avoir un collège Cahuzac ou des choses comme ça. Mais c'est assez révélateur de la façon dont les choses sont en train d'évoluer. Donc la cité internationale Jacques Chirac, donc qui a ce nom ronflant là pour un petit peu appâter la clientèle, parce que c'est ce rapport exactement que cet établissement veut entretenir, c'est-à-dire un lycée qui propose une prestation digne de vos enfants, voilà, qui n'est pas là pour suppléer à un manque de structure d'établissement public dans le secteur du 3e, et pourtant qui est criant, hein, y a pas de collège à moins de 10 km. Il y a vraiment des gros problèmes. Les familles en primaire qu'on interroge, qu'on a rencontrées, le soulignent. Et pourtant, cet établissement, il est là que pour accueillir des élèves qui ont été sélectionnés pour ça et qui ont un profil particulier. À tel point que donc les parents qu'on a rencontrés en diffusant cette information sur l'action nous ont dit « Nous, on a fait des dossiers, mais on est tous refusés. Nos élèves, enfin nos enfants sont bons. Enfin, il n'y a pas de... Et on est refusé. Effectivement, nous, on a vu dans les lycées, par contre, tous les ans, le lycée Jacques Chirac organise des concours pour sélectionner les meilleurs des élèves des autres établissements. Donc, en fait, il pompe les meilleurs élèves. Il sélectionne je ne sais pas si c'est... on n'a pas vu d'études encore sur la sociologie des élèves de Jacques Chirac, mais on voit bien ce que ça donne dans cette idée de sélectionner. C'est un fonctionnement finalement hors carte scolaire, donc finalement comme le privé, financé entièrement par contre par le public. Donc on est vraiment sur cette nouvelle glissade. Pourquoi pas faire du privé avec de l'argent public, puisqu'on a déjà commencé à le faire, et c'était vraiment très symbolique. Donc là, Jacques Chirac nous paraissait vraiment important, surtout que, effectivement, comme il a été créé à budget constant dans plein de choses, les AED, les CPE, donc les profs qui au passage sont sélectionnés par la direction, donc ça c'est tout à fait nouveau, hein, c'est imposé notamment par Macron, c'est la direction qui sélectionne les enseignants, comme dans le privé. Donc finalement, non seulement on avait quelque chose symboliquement, le fonctionnement du privé qui rentre dans l'école publique, on avait une grande partie des moyens qui allaient sur Jacques Chirac, alors que Jacques Chirac ne fonctionne pas, c'est-à-dire n'offre pas vraiment ça au public, puisqu'il offre ça à un public restreint, sélectionné, et sans doute assez homogène, malheureusement homogène, au niveau de la représentation en termes de classe sociale. Donc, fatalement, il fallait qu'on fasse un éclairage là-dessus. Voilà pourquoi on s'est rassemblés devant Jacques Chirac pour dénoncer un petit peu cet état des lieux. Mais au-delà de ça, il y avait d'autres choses qu'on a voulu montrer. Enfin, le Yola, par exemple, on a profité de ce rassemblement pour passer devant le chantier du collège Loyola, qui est un collège privé, totalement privé, et qui a été financé par le conseil départemental, je crois, à hauteur de 2 millions, donc largement au-delà de ce que le conseil départemental doit faire. Et c'est à l'image de ce qui se passe sur tout le 13. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sont donnés sur ces structures privées. Voilà, c'était l'occasion aussi de rencontrer. On a un peu raté, et c'est pour ça qu'on a envie de refaire quelque chose. La jonction avec les parents des écoles aux alentours. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a beaucoup de colère. Là, il y a un collectif justement de mamans qui s'est réuni ou va se réunir devant la mairie. Là, il y a notamment sur le problème du bâti, parce que c'est catastrophique. Le problème du bâti dans le primaire. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on va y revenir, ce sera une prochaine question, je suis sûr.
D'accord. Oui, je me suis laissé dire quand même que par rapport à Jacques Chirac, il y a des enfants il y a des écoles autour de Jacques Chirac qui sont en très mauvais état, ou en tous les cas qui nécessiteraient que les enfants puissent aller s'installer dedans et qui n'ont pas trouvé de place justement.
Oui, tout à fait. La solution, ça va être l'école privée de Loyola, donc collège jésuite, ou alors. Partir sur un collège qui est à une heure de bus. En plus, vu l'état des transports qui sont aussi laissés totalement à l'abandon, il n'y a pas de solution dans le troisième en dehors de ça. Donc on a vraiment un secteur qui est laissé à l'abandon, en disant de toute façon, ce secteur il est en rénovation, l'objectif c'est d'en faire... de faire Euromed avec des cadres qui vont s'installer. On a déjà la cité Jacques Chirac ronflante. Je ne sais pas si vous l'avez. J'engage les auditeurs et auditrices à aller voir ce collège, ce collège-lycée, école primaire. C'est une cité scolaire. C'est absolument magnifique. Enfin, il y a des arbres. Ça tranche. On tourne la tête. On voit CMA-CGM. Enfin, on sent vraiment que c'est inscrit dans le projet futur de ce. Et puis on tourne la tête de l'autre côté, puis on voit le reste du troisième. Et là, c'est dans la tête des décideurs ce qui va disparaître. Donc c'est pas grave. On n'a pas besoin de construire un collège pour les gens qui habitent là. Quoi. Effectivement, c'est assez grave, mais c'est ce qu'il y a. Le plus symbolique dans le troisième, mais ça existe, c'est décliné bien sûr ailleurs, assez largement sur tout le département. Ouais.
D'accord. Bien, je vais te poser une autre question, parce que vous en avez déjà discuté. Ouais. Quelles sont les suites que vous pouvez prévoir, en tous les cas, celles que vous avez prévues, les actions du collectif, avec d'autres ou pas, je ne sais pas. Voilà.
Alors, comme je disais, c'est un collectif informel avec ses avantages en termes de fonctionnement. On n'a pas besoin d'attendre qui que ce soit pour se réunir. On fonctionne autour d'une dizaine, une vingtaine de personnes en fonction de l'énergie de chacun, chacune. Donc, on ne peut pas prévoir que demain, à la rentrée, ce collectif aura encore l'énergie pour se réunir. Mais on sent qu'il y a quand même une envie de continuer là-dessus. Parce que cette thématique de l'école privée va demeurer et on aura toujours de quoi faire. Donc on a envie de continuer à porter déjà un certain nombre de revendications, notamment celles avec la libre pensée, sans doute d'ailleurs, avec l'observatoire aussi sur le financement de l'école privée qui vient de se créer, de faire en sorte qu'il y ait un plan d'inspection des établissements privés sous contrat. C'est ce que pour montrer que ils ne remplissent pas et de loin leur obligation contractuelle. On a besoin là aussi de savoir exactement, parce que c'est peu connu, l'état du financement sur tous ces établissements là. Donc on va continuer à pousser avec les autres associations qui s'occupent de ça, bien sûr apporter des revendications qui sont propres à l'école sur la diminution des effectifs et pour le primaire, la rénovation du bâti, enfin avoir un bâti qui permet d'enseigner. Enfin, c'est important. Par rapport à Jacques Chirac, ce sera la sectorisation des élèves, c'est-à-dire que Jacques Chirac fonctionne comme tous les établissements publics. Et qu'il n'y ait pas de sélection sur dossier. Au début, je pensais que c'était seulement 30%, mais a priori, ça va être 100% des élèves. Ils ne remplissent même pas leur classe actuellement, juste parce qu'ils ne trouvent pas les bonnes personnes. Enfin, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas cesser de dénoncer, au moins de mettre sous les projecteurs. On n'a pas de... on a décidé de ne pas en parler aujourd'hui de date d'action encore à la rentrée, parce que cette fin d'année, il est peu probable qu'on relance une action, enfin même il est sûr qu'on relancera pas l'action. On a prévu, je le donne pour ceux et celles qui voudraient se joindre à nous ou au moins nous rencontrer, une réunion le 17 juin, ça doit être un mardi 17 juin au local de Solidaire. J'ai plus le numéro, j'ai encore oublié. À Vimonchamp, là. Vous m'aiderez. Donc vers 18h. Et ensuite, à la rentrée, sans doute, on essaiera d'organiser de nouveau une action de rassemblement devant un établissement un petit peu symbolique pour continuer un petit peu à faire de l'agitation et d'éclairer le sujet. On a prévu aussi, au moins on a dans l'ambition en tout cas de diffuser ces informations-là au travers des syndicats, donc surtout les collègues qui sont relativement peu au courant finalement de ce qui se passe, ou du moins ils sont au courant que la situation, ils voient bien que la situation se dégrade dans leur établissement, alors pas de façon continue, c'est ça qui est un petit peu subtil, c'est un an, ça se passe bien, enfin ça se passe bien, il n'y a pas de perte de moyens, puis l'année d'après il y en a un petit peu, puis après il n'y a plus rien, puis après il y a un petit peu, enfin voilà, en fait c'est comme la grenouille dans la marmite qui chauffe doucement, donc les choses se dégradent et régulièrement, pof, il y a quelque chose qui casse, un collègue qui ne revient pas parce qu'il ne peut plus travailler, il manque des AED, tout à coup il y a une rixe entre des élèves, une violence qui éclate. Enfin, il y a des choses comme ça qui craquent régulièrement, mais on ne fait pas forcément le lien avec en fait, de l'argent, il y en a, et il est employé à financer une école privée qui ne fonctionne pas pareil, qui n'a pas les mêmes ambitions de produire une éducation un petit peu la même pour tous et toutes. Et donc, voilà, continuer d'informer là-dessus. Sans doute essayer de renforcer ce collectif qui est pour moi une alternative assez intéressante à ce qui se passe au niveau de la. Enfin, ou ce qui se passe pas, peut-être, au niveau de la mobilisation, on va dire classique, par le biais des syndicats et des manifestations. Parce qu'on voit bien que. Bon, c'est un constat qui n'est pas nouveau, ça s'essouffle, là encore, à chaque manifestation, on est quelques centaines. Alors peut-être qu'il y a un problème particulier sur Marseille, je ne sais pas, mais en tout cas, on sent bien que les rendez-vous de manifestation, on défile, on pose un jour de grève et puis après on retourne. Voilà, ça ne satisfait évidemment plus, d'une part parce que l'efficacité, même quand on est très très nombreuses et nombreux, ça ne marche pas beaucoup, donc on avait besoin, je pense, dans les membres du collectif, de trouver un espace voilà, où on peut construire quelque chose sans forcément avoir besoin d'avoir de pression. On sait qu'on peut le faire, voilà, finalement, à une trentaine. On fait un dépôt de manifestation, on fait une affiche, on informe. Une trentaine de militantes et de militants, on peut faire quelque chose. Ça ne va pas être la grande manifestation de 30 000 ou 40 000 personnes, mais peut-être le grain de sable qui va permettre de produire un éclairage pertinent qui va un petit peu engager d'autres personnes à suivre là-dessus. Parce que là, finalement, on a une cible est quelque chose qui est assez local. Voilà, on interpelle les institutions départementales et autres. La mairie a donné des chiffres et des données à surveiller. C'est des choses qu'on peut faire localement. On n'est pas en train de demander, de crier dans le vide pour que le gouvernement cesse la casse ou cesse sa énième réforme sur le choc des savoirs qui a contribué à totalement déstructurer le collège et puis les réformes du lycée pareil. Enfin voilà, on a pas la main, on se sent difficilement efficace lorsque à 100 voilà on essaye de changer les choses au niveau national forcément. Donc là au moins on est sur une ambition plus locale et c'est plus motivant. Ouais.
Très bien, bah écoute, je te remercie. Si je devais finir par... En fait, en gros, vous êtes en train d'informer.
Oui, informer. Oui, tout à fait. Et puis agir de nouveau. Donc, en fonction de l'actualité, évidemment, on pourrait se retrouver à plus nombreux et plus nombreux, mais c'est un peu le principe des AG de l'éducation nationale, qui est une petite tradition, même ici à Marseille, moi que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire que quand les gens ils se réunissent, voilà, on fait une AG, on décide, les syndicats sont là, on appuie très bien, ils ne sont pas là, tant pis. Et je dis ça alors que je suis syndiqué, que j'apprécie particulièrement, enfin je suis syndiqué depuis peu, parce que je sens vraiment que c'est absolument nécessaire de s'indiquer dans le contexte actuel. Mais voilà, c'est pas pour autant que toutes les actions doivent partir des syndicats et s'organiser autour des syndicats. Des fois, elles sont pas là, et donc faut prendre la main, faut pas attendre. Quoi.
Bien, mais écoute, on va conclure sur tes dernières paroles.
Yes.
Et on va passer à une plage musicale. Alors, nous avons choisi une chanson, enfin, on a cherché une chanson qui illustrerait l'importance de l'école publique laïque. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Nous en avions trouvé une et on ne va pas répéter constamment, faire passer constamment les mêmes chansons, qui étaient Mademoiselle de Julien Clerc. Là, aujourd'hui, nous avons choisi Il changeait la vie de Jean-Jacques Goldman, qui nous a semblé assez pertinente dans la mesure où il s'agit, qui présente, disons, les actions des hommes comme facteurs de changement et qui consacre deux couplets à la fonction émancipatrice des professeurs.
Allez, en avant pour du Goldman.
voiture sans saxophone.
Bien, ben voilà un moment musical qui donne un peu la pêche. À présent, nous allons passer à l'intervention de Michel Garin, qui va nous parler de la situation à Gaza. Alors, le génocide qui se poursuit avec chaque fois, à chaque jour un peu plus d'horreur, voit les protestations qui s'amplifient. On voit même certains qui portaient hier des accusations d'antisémitisme contre ceux qui dénonçaient et exigeaient l'arrêt des massacres, employés à présent le mot de génocide, ou tout au moins dire qu'il faut que tout ça s'arrête. Michel, peux-tu nous parler de la situation à l'heure actuelle ?
Oui, alors d'abord, bonjour aux auditeurs. Alors, mon intervention vient, elle est consécutive d'ailleurs, à celle que j'avais faite le mois dernier, concernant les 100 000, je dirais, réservistes qui refusent de se présenter pour faire la guerre. Alors aujourd'hui, bien sûr, ça continue. Il faut savoir que, bien entendu, le silence de la communauté internationale tue à Gaza et en Cisjordanie. À ce jour, je rappelle que le bilan est quand même de 54 470 morts et 124 693 blessés dans l'enclave depuis le 7 octobre 2023. Alors, ce 2 juin encore, au moins 31 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés quand les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu à l'aide de chars et de drones sur des milliers de civils qui s'étaient rassemblés depuis l'aube près du centre d'aide humanitaire soutenu par les États-Unis et Israël dans le sud de la bande de Gaza, près ce qu'on appelle près du rond-point Al-Alam au nord-ouest de Rafah. Alors l'armée israélienne, il faut savoir que l'armée israélienne a annoncé dimanche dernier, hein, c'est pas vieux, contrôler actuellement 40% du territoire de la bande de Gaza dans le cadre de l'opération Char de Gideon. Selon les estimations militaires, ce pourcentage devrait atteindre 75% d'ici 2 mois. Alors, il faut savoir, qu'est-ce que c'est que cette opération Char de Gideon ? Alors, l'opération Char de Gideon, c'est 5 divisions israéliennes qui opèrent simultanément dans la bande de Gaza, incluant l'ensemble des brigades d'infanterie et blindées de Tsahal. Cette mobilisation représente un effort sans précédent par son ampleur, avec des milliers de combattants déployés sur l'ensemble du territoire gazaoui. L'armée israélienne prévoit de déplacer environ 2 millions d'habitants vers plusieurs zones spécifiques, Muassi, la zone centrale du camp et le centre-ville de Gaza. Il n'est pas nécessaire peut-être de rappeler que le principal soutien du gouvernement israélien est les États-Unis et qu'en recevant la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le mardi 4 février, le président américain a suscité stupeur et fureur et cautionné ses actions en annonçant son ambition d'exiler les habitants de l'enclave palestinienne pour y bâtir la Côte d'Azur du Moyen-Orient. Ce qui explique bien les 75% qu'ils veulent prendre. Mais il n'y a pas que Gaza. Dans l'ombre de la guerre à Gaza, Israël continue sa stratégie de colonisation en Cisjordanie occupée, revendiquant de plus en plus ouvertement sa volonté d'annexion du territoire palestinien, donc pas que Gaza. Jeudi 29 mai, le gouvernement israélien a annoncé la construction et la légalisation de 22 colonies dans ce territoire occupé depuis 1967. Une décision historique, a commenté le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est extrême droite, bien sûr, comme la majorité du gouvernement de Netanyahou. Nous construirons l'État juif ici, sur le terrain, a renchéri le ministre de la Défense, Israël Katz, vendredi 30 mai. Alors, pourquoi ce génocide en cours ne peut être stoppé? Comment vivre sans liquidation d'un peuple? Comment résister? Pourquoi la communauté internationale ne réagit pas? Autant de questions que l'on peut se poser. En France, comme à l'étranger, des voix nombreuses et diverses s'expriment pour dénoncer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et empêcher un génocide à Gaza. Donc, plus particulièrement donc en France, Emmanuel Macron a fait savoir pour la première fois sa volonté que la France reconnaisse l'État palestinien. Peut-être en juin prochain, ça c'est peut-être, lors d'une conférence co-organisée avec l'Arabie Saoudite. C'est quand même une déclaration marquant un tournant dans sa politique, bien qu'encore très conditionnelle, et même on peut dire très conditionnelle. Jusqu'ici, la France plaidait pour une solution à deux États, sans jamais franchir le pas de la reconnaissance, contrairement à 147 pays membres de l'ONU. Je rappelle à cette occasion que la libre pensée est pour un seul État. Alors que dès le 7 octobre 2023, le PS, le PCF et EELV, c'est-à-dire les Verts, s'étaient empressés d'apporter leur soutien inconditionnel à Israël, niant ou feignant d'oublier la situation coloniale, l'apartheid et le nettoyage ethnique subi par les Palestiniens depuis bientôt 80 ans, 19 mois après, ceux-ci retournent leur veste. Les élus et militants du PS, du PCF et des écologistes se sont réunis le lundi 26 mai, place du Trocadéro à Paris. Ce rassemblement a été appelé par le PCF sur la base du slogan « Stop au massacre, la paix maintenant, reconnaissance de l'État de Palestine ». Les porte-paroles des trois organisations se succédaient au micro et y ont dénoncé de concert le génocide en cours à Gaza. Un terme que les trois parties ont passé les 19 derniers mois à soigneusement éviter, allant jusqu'à appuyer la répression étatique à l'encontre de ceux qui, comme la LFI entre autres, oser le dénoncer jusqu'à encore très récemment. Doit-on aussi les traiter d'antisémitisme, comme ce fut le cas? Un positionnement qui est d'autant plus question que le PCF, pour la bonne et simple raison, c'est que le PCF, a choisi d'organiser son rassemblement le lendemain de la manifestation appelée par Urgence Palestine, place de la République, rassemblant plus de 10 000 personnes malgré l'absence de ces trois partis. Je rappelle que suite à la procédure engagée fin avril 2025 par le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, le collectif Urgence Palestine pourrait être dissous, empêchant cette organisation de poursuivre ses actions en mobilisation contre le génocide en cours dans la bande de Gaza. Au micro du rassemblement, le dirigeant du PCF, Fabien Roussel, s'est exclamé « Non au nettoyage ethnique à Gaza et au génocide du peuple palestinien ». Son homologue des écologistes, Marine Tondelier, a déclaré de son côté que ce qui se joue à Gaza, c'est l'image que l'humanité se fait d'elle-même. Et on continue. Quant à lui, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, en campagne, bien entendu pour sa réélection, a affirmé lors de son discours que le gouvernement Benjamin Netanyahou commet un génocide. Donc, on le voit, tout le monde maintenant reconnaît que c'est un génocide. Alors je rappelle que le PS et les écologistes et le PCF ont participé, pourtant, ils ont participé il y a tout juste quelques semaines à la rédaction et ont accompagné la loi de lutte contre l'antisémitisme dans les universités qui vise en réalité à réprimer l'antisionisme et la critique du génocide en cours à Gaza. Vous le voyez, quoi, les retournements, ils y sont. Dernier exemple de ce retournement de veste cynique, le maire PS de Marseille, Benoît Payan, hein, puisqu'on est à Marseille, a promis qu'il ferait gracieusement voter par son conseil municipal une aide à l'UNICEF afin d'aider les enfants de Gaza. Mais pourtant, c'est quand même lui qui avait fait suspendre l'aide de sa ville à l'UNRWA il y a tout juste quelques mois. Bon, bien entendu, il a quand même remise cette subvention. Alors c'est heureux, ces retournements, bien entendu, apparaissent bien tardifs. Mais comme l'on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, même si l'on n'oublie pas. Le moment est au rassemblement derrière la souffrance du peuple palestinien. Alors il faut savoir qu'en Europe également, et on peut constater des avancées bien entendu. Les alliés d'Israël commencent à revoir leur position et poussent pour un cessez-le-feu. Le blocus de 11 semaines sur l'entrée de l'aide semble avoir déclenché un revirement dans bon nombre de capitales européennes. L'UE va y réexaminer son accord d'association avec Israël. Alors, il faut savoir que l'UE est le premier partenaire commercial d'Israël, avec des relations commerciales évaluées à plus de 45 milliards d'euros par an. Il y a 15 mois, l'Irlande et l'Espagne ont pour la première fois évoqué la possibilité de revenir sur l'accord d'association, sans parvenir à allier d'autres pays de l'UE à cette démarche. Dublin et Madrid ont également adressé une lettre à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, restée sans réponse. Quant au Royaume-Uni, lui, il a suspendu ses négociations commerciales avec Israël et convoqué l'ambassadeur de l'État hébreu en raison de ce qu'il a qualifié d'offensive intolérable de Tsahal à Gaza. Les démarches toutefois européennes donc, a pris un nouvel élan. La démarche donc a toutefois pris un nouvel élan ces dernières semaines lorsque les Pays-Bas, considérés comme un allié solide d'Israël, ont déclaré que le blocus humanitaire imposé par Israël à Gaza constituait donc une violation du droit humanitaire international et donc de l'article 2 de l'accord d'association. Alors l'article 2 de l'accord d'association, c'est quoi? Alors, il faut savoir que l'article 2, c'est un accord qui stipule que les relations doivent être fondées sur le respect des droits humains. Donc on voit bien que ça concerne, au niveau des droits humains, quand même, il y a un gros problème. Alors aujourd'hui, il faut savoir que 17 des 27 ministres européens des Affaires étrangères ont soutenu cette proposition présentée par Kaja Kallas de réexaminer cet accord commercial. Alors ensuite, il faut savoir qu'une autre proposition qui visait à accroître la pression sur Israël, ils ont mis en place une autre proposition qui visant à accroître la pression sur Israël en introduisant de nouvelles sanctions contre les colons israéliens responsables de violences en Cisjordanie a été soutenue par 26 des 27 États membres. Seule la Hongrie n'a pas donné son veto. Enfin, a donné son veto, plus précisément, n'a pas donné sa voix. Encore un exemple, le ministre suédois des Affaires étrangères, Maria Malmer Stinnergard, a laissé entendre qu'elle irait plus loin et ferait pression pour que l'UE prenne des sanctions à l'encontre de certains ministres israéliens. Alors aujourd'hui, pour rester un peu dans l'actualité, il faut savoir que ces mouvements continuent en faveur de la paix. Par exemple, la militante pour le climat, Greta Thunberg, la députée européenne de la France insoumise, Rima Hassan, ainsi que 10 autres militants ont pris la mer dimanche en direction de la bande de Gaza à bord d'un bateau géré par l'organisation non gouvernementale Coalition pour la Flottille de la Liberté. Ce navire tentera d'atteindre les côtes du territoire palestinien dévasté pour apporter de l'aide humanitaire et briser le siège d'Israéliens. Alors on voit que ce truc, j'ai regardé encore aujourd'hui... Il y a des gens qui ne sont quand même pas trop bien, puisque nous avons constaté une élue, par exemple, pour ne pas dire PS, qui a constaté que cette balade ressemblait plus au club méditerranéen. Vous voyez, comme quoi l'abjection va quand même très très loin. Et en disant même que, étant surveillée par les drones, il y avait un danger. Elle propose à Rima Hassan de plonger. Voilà. Vous voyez qu'on n'est quand même pas au bout de nos affaires. Alors maintenant, il y a encore une autre chose qu'on pourrait dire, puisque restons marseillais jusqu'au bout. Pourquoi M. Payan ne mettrait-il pas le drapeau palestinien, par exemple, sur le fronton de la mairie de Marseille, hein? Pourquoi pas? Ensuite, il y a une autre action qui peut être faite. D'ailleurs, il y a des rassemblements aujourd'hui pour, en définitive, supprimer le jumelage avec les Israéliens de la ville de Marseille. Ça, ce sont encore des solutions. Alors nous, qu'est-ce que nous disons? Nous demandons l'arrêt de l'annexion de la Palestine, l'arrêt des massacres et la reconnaissance de l'État palestinien. Et c'est pas fini. Merci.
À présent, je crois que tu as une chanson à nous proposer, ou on a le temps, on n'a pas le temps?
Oui. Oui, on a le temps, c'est juste la chanson. Alors, quand les hommes vivront d'amour, c'est une chanson de Raymond Lévesque de 1956, alors qu'il vivait à Paris. Hein, bon. Cette chanson, c'est un appel à la paix qui est atteint du manif, c'est une chanson qui a été faite surtout à propos de la guerre d'indépendance de l'Algérie, hein, qui a écrit, qui a écrit cette chanson en 1956. Donc je vous passe la chanson immédiatement.
Les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons grands, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons. Nous aurons eu la mauvaise partie.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix.
Notre émission va se terminer. Avant de conclure, je voudrais vous indiquer que donc, cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de la Libre Pensée, lp-13.org, et bien entendu en podcast sur le site de Radio Galère. Je voulais juste vous informer aussi d'une chose, c'est que sur le site de la Libre Pensée, vous pouvez vous informer sur tout ce qui se passe, en tous les cas tout ce que nous écrivons sur la situation, notamment au travers de notre journal L'Impertinent, qui d'ailleurs pour ce mois-ci a consacré plusieurs pages en défense de l'école publique, et donc qui retrace. Qui relate donc ce qui se passe sur Marseille, notamment le rassemblement pour l'école publique pour un plan d'urgence dans le 13, l'observatoire qui s'est créé pour permettre pour que les fonds publics aillent à l'école publique. Ensuite, vous avez un article qui me paraît important sur ce qu'est le caractère propre de l'enseignement privé dont on nous parle régulièrement et dont qui leur permet en fait de faire absolument ce qu'ils veulent au sein de l'école, des écoles privées. Excusez-moi pour d'avoir bafouillé. Pour terminer, je dirais que merci à tous pour votre contribution à cette émission. Merci à Daniel et à Lucien de nous recevoir sur cette plage de l'article 45. Au revoir et au 2 juillet prochain.